Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio. Et alors, on est des pipelettes. Et oui, bonjour,
bonjour madame.
On est ensemble pour le 10h midi. On reçoit Karine Le Marchand ce matin. Bonjour Karine.
Là,
bonjour.
Ça parlait coiffure.
La pipelette en chef. Alors, on a toujours plein de trucs à se raconter. Et surtout, Karine s'intéresse à un tas de choses. C'est vrai, hein, vous êtes extrêmement curieuse, extrêmement renseignée sur beaucoup de choses. Donc voilà, on avait commencé à parler, mais on vous reçoit ce matin pour parler d'une nouvelle émission que vous avez imaginée, produite, qui sera diffusée sur... c'est pas ce soir,
non, non, c'est demain lundi.
C'est lundi, voilà. Nous, on a eu la chance de la voir avant. Opération Renaissance. On sera tout à l'heure avec Pierre-Yves, qui est un témoin qui était obèse, qui a décidé de maigrir, puisque c'est le principe de l'émission. Et le docteur Réginald Alouche, qui également sera avec nous, qui fait partie de cette émission dans laquelle vous êtes entouré d'experts. Mais on va y revenir dans un instant et puis vous publier également les 15 étapes pour apprendre à s'aimer. Vous êtes vraiment tournée sur l'intime, sur...
les 15 étapes pour apprendre à s'aimer, c'était pas du tout prévu d'être vendu. C'était vraiment, ça faisait partie des outils pédagogiques qu'on a élaborés avec le protocole médical pour les témoins de l'émission. Et ça a été tellement fondateur pour eux, ça les a tellement transformés, ça les a aidés à dire en fait l'origine de leur mal et à se reconstruire que j'ai dit, mais en fait, le truc existe, autant le vendre.
Et on le trouve où? Parce que c'est
alors,
vous qui l'éditez.
Instant, on le trouve sur un site internet que j'ai créé, je l'ai auto-édité, qui s'appelle 15étapes.com.
Bon, 15étapes.com. Alors Gilles, la question
du jour. Du coup, on s'est demandé si vraiment l'obésité, qui est au cœur d'un docu-réalité, ça vous choque, puisqu'évidemment les journaux sont tombés, on va en parler à bras raccourcis sur Karine Le Marchand.
Non.
Un petit peu quand
ah
même.
Bon
bah oui,
mais ah
c'est,
bah pas du
c'est
tout
ce que vous disiez pas. Mais en bah tout cas, on s'est demandé si c'était choquant ou pas. Eh bien, pour nos auditeurs, c'est pas du tout choquant. À 79%, ils approuvent ce docu-réalité. Et oui, à 21%, vous pouvez continuer à voter durant, justement, on va en parler sur le compte Twitter de Sud Radio.
Vous allez nous expliquer la démarche qui a été la vôtre dans cette émission, qui est assez novatrice dans la manière de présenter les choses. On va y revenir, Gilles Le Zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Le zapping, évidemment, c'est les dernières heures qu'on a vécues à la télévision avec ce qu'il s'est passé aux États-Unis. Tout a commencé, il était alors 18h, heure française, quand Trump harangue ses supporters à marcher sur le Capitole. Très vite, Quotidien sur TMC casse son antenne et fait un direct depuis le Capitole avec un ton très live.
Les pro-Trump sont donc rentrés à l'intérieur du Capitole, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Écoute, ils sont passés par-dessus les barrières qui protégeaient le Congrès. La police était complètement dépassée, ils ont monté les marches, ils ont poussé, ils ont réussi à rentrer. Là, on est avec eux à l'intérieur du Congrès. Ils vont un peu partout, ils montent dans les escaliers.
Mais est-ce qu'ils sont pacifiques? Ils font quoi à l'intérieur?
Pour le moment, ils avancent, ils crient, ils s'enlacent parce qu'ils sont super contents d'avoir réussi à rentrer. Donc, ils verront que c'est leur congrès, ils sont là pour récupérer, ils disent qu'ils sont là pour récupérer leur victoire.
Quotidien qui a donc été très réactif en direct sur TMC.
Toutes les chaînes d'info étaient, mais c'est vrai que leurs journalistes étaient sur place. Vous avez vu les images hier, Karine?
Un petit peu, pas trop. Ouais. J'avoue qu'en ce moment, j'évite un peu les infos parce que je trouve ça hyper anxiogène et je me protège. Et que si je regarde un peu les infos en boucle, je trouve ça super angoissant.
D'accord.
Excusez-moi. Hein, mais je lis la presse sur Internet et ça me suffit. Je lis les titres, les articles, mais les images me choquent. Ouais. Mais voilà, c'est dramatique.
Mais aujourd'hui, ce qui vous angoisse, c'est le Covid, enfin, parce que les Trump, c'était hier, ou c'est d'une manière générale?
C'est que d'une manière générale, j'ai le sentiment que les journalistes ne s'emparent que de ce qui est dramatique. On ne parle que des morts, on ne parle pas des 99% de gens qui ressortent du Covid quand même. Malades. Donc à un moment donné, il faut arrêter.
Vous trouvez qu'on en fait trop?
Fait trop, c'est angoissant, on ne se rend pas compte. On va compter aussi les morts par suicide et par dépression. Il faut savoir à qui on s'adresse. À un moment donné, il y a aussi des choses jolies qui se passent, il y a aussi des liens qui se créent, de l'entraide. Il y a aussi la Covid a aussi généré des formidables liens entre les humains. Et c'est pas fini.
Mais je ne suis pas sûr que les gens aient envie de regarder ça.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Il y a eu plein d'essais, d'émissions joyeuses, d'actualités joyeuses, ça n'a jamais marché.
C'est une décision qu'il va falloir qu'on prenne, parce qu'il va falloir aussi qu'on est responsable aussi du bien-être des gens.
D'être sur des choses plus positives.
Bah oui.
Alors,
on va continuer avec la soirée sur France TV Info. Loïc Delamornay était au cœur de la révolte avec les supporters de Trump, et non pas à l'extérieur. Vous savez, Valérie, les journalistes sont souvent derrière des barrières à filmer. Lui, il était à l'intérieur de l'événement. C'était assez remarquable, écoutez.
N'a cessé d'appeler ses partisans à faire ce genre de choses. Vous voyez, la police, nous sommes en train d'être évacués. La police essaye de reprendre le contrôle du bâtiment. Des gaz lacrymogènes sont tirés. La situation devient un petit peu plus tendue. Nous reculons. Ça y est, des renforts de police sont arrivés et ils sont en train de reprendre le contrôle de terrasse du Capitole. Donc nous reculons avec Thomas Donzel en même temps que les militants trumpistes, comme vous le voyez.
Il est alors 23h du matin en France. Quand...
23h du soir.
23h du matin, c'est parce que je l'écris ce matin.
Voilà.
Il est 23h. Il est 23h
hier
soir en France. Quand désormais un vrai président des États-Unis, Joe Biden, intervient, le ton est ferme et digne.
C'est l'état de droit qui a été attaqué, comme nous l'avons rarement vu. C'est une valeur sacrée de l'Amérique qui a été attaquée. La gestion des affaires du peuple, je vais être très clair, les scènes de chaos au Capitole ne montrent pas le vrai visage de l'Amérique, ne représentent pas ce que nous sommes. C'est quasiment de la sédition et cela doit s'arrêter maintenant.
Le couvre-feu est alors ordonné par le maire de Washington. L'armée et la police reprennent le contrôle du Capitole. Il est 1h du matin et Jean-Bernard Cadier est en direct sur BFM.
Oui, la situation est rentrée dans l'ordre, au moins à l'intérieur du Capitole. L'armée patrouille les rues de la capitale fédérale. On croit rêver quand on prononce des phrases pareilles. L'armée patrouille les rues de la capitale fédérale pour faire respecter le couvre-feu après l'assaut contre le Parlement. Je me demande si je vous parle des États-Unis d'Amérique ou d'une république bananière sud-américaine.
Le calme est donc revenu. Le Congrès reprend son travail pour approuver les votes américains, en tout cas les certifier. Il est désormais temps de juger de la responsabilité de Donald Trump et les députés s'expriment au cœur du Capitole sur cette responsabilité de Donald Trump.
Républicains ou démocrates, tous pointent rapidement du doigt un seul et même responsable, Donald Trump.
Nous avons assisté aujourd'hui à une insurrection provoquée par le président des États-Unis.
Make no mistake, my friends.
Ne vous méprenez pas, mes amis. Les événements d'aujourd'hui ne se sont pas produits spontanément. Ce président porte une grande part de responsabilité. Les événements d'aujourd'hui ne se seraient certainement pas produits sans lui.
Valérie, Karine, c'était une journée triste et historique des États-Unis d'Amérique.
Voilà. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec Karine Lemarchand, notre invitée aujourd'hui, Pierre-Yves, qui est un des témoins de l'émission qui sera diffusée sur M6 lundi prochain, Opération Renaissance, et le docteur Réginald Allouche. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Média, les invités du jour.
Les invités du jour, Karine Lemarchand, Pierre-Yves, que vous ne verrez pas si vous êtes sur notre Facebook, puisqu'il fait partie des témoins qui ont décidé de maigrir et de participer à l'expérience.
A-t-il réussi ou pas ?
Donc, a-t-il réussi ou pas ? Vous verrez. Et le docteur Réginald Allouche, bonjour. Vous êtes médecin, diabétologue, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. La méthode hépato-détox, c'est votre livre qui est paru chez Albin Michel. Vous faites partie des experts qui entourent Karine Lemarchand. Il y a un coach, il y a un psychiatre, il y a
une diététicienne
Christina Cordula.
Oui aussi, assez brièvement. Oui. Il y a une hypnothérapeute, deux chirurgiens de digestif et deux chirurgiens de la chirurgie réparatrice.
Alors racontez-nous la genèse de cette émission, parce qu'on va vous dire, des émissions comme celle-là, on n'a pas vu sur ce format-là. Il y a eu « On fait maigrir un village », « On fait maigrir des gens », mais là, vous prenez des obèses, des personnalités qui ont une obésité
morbide,
qualifiée de morbide.
Oui. Et qui sont déjà engagées dans un parcours chirurgical.
Voilà.
Parce que je ne voulais pas que la télévision soit prescriptrice d'opérations de chirurgie.
Ben oui, c'est ça.
C'était trop dangereux. D'ailleurs, on va voir au cours des épisodes que c'est très dangereux. Et
qu'il y en a d'ailleurs qui
n'ont pas été au bout.
Et qui n'ont pas été
au bout. Alors, il y en a qui ont failli décéder. Il y en a quand même deux qui ont failli décéder sur 10 pour diverses raisons dans l'aventure. Et il y en a quand même 4 qui se sont retrouvés sous antidépresseurs. Et il y en a trois qui ne sont pas allés jusqu'au bout.
Ouais. Donc c'est pas anodin et c'est pas le but n'est pas de dire aux gens obèses. Alors quel était votre objectif?
L'objectif c'était de comprendre déjà de donner la parole aux gens qui étaient concernés et arrêter de n'avoir que des experts. Excuse-moi Réginal, mais je trouve que l'obésité souvent jusqu'à présent on donnait la parole qu'aux experts et on donnait rarement la parole aux malades.
C'est vrai.
Et moi il me semblait que c'était important. Ensuite quand on est soi-même malade, on n'est pas forcément au fait de la vraie chose, parce qu'on s'arrange avec soi-même. Donc c'était important aussi de déterminer, là pour le coup, avec un pool d'experts qui, habituellement, ne se réunit pas comme ça, pouvait vraiment expliquer les genèses, la genèse de l'obésité, les risques, les conséquences et comment en sortir. Et accompagner des malades pendant 3 ans, parce qu'effectivement, il y a des documentaires sur l'obésité, etc., mais qui sont souvent très court terme, parce qu'effectivement, c'est une prise en charge qui est longue, et la production, elle n'a pas le même temps que le combat contre l'obésité. Et jusqu'à présent, on a des obèses, on va dire, au début de leur parcours, dans une émission, et puis d'autres à la fin de leur parcours. Mais on ne suit pas ces personnes-là. Or, le nœud du problème, il n'est pas dans la perte de poids, il est dans la stabilisation. Tout le monde sait comment... Alors, il n'y a pas plus expert que les obèses en termes de régime, parce qu'ils ont tous fait. Ils ont tout tenté. Ouais. Ils s'y connaissent très bien, ils savent très bien les cinq légumes par jour et toutes ces bêtises-là. Enfin, c'est important,
Enfin, c'est pas que ça, parce que faire après.
Et surtout que l'obésité n'est pas qu'une question d'alimentation. Et justement, dans l'émission, je pense qu'on voit bien que, ok, il y a l'exaltation au début quand on perd du poids, que ce soit un régime ou la chirurgie, ça très bien. Et ça, tous ceux qui ont même perdu 3-5 kilos connaissent cette espèce de phase comme ça où on est super content, tout le monde dit ah, t'es canon. Le problème, il vient après. Et là, vraiment, on a été confronté à une exigence de changement et de compréhension de soi-même.
Et il faut dire que donc, ça a été tourné sur
trois ans.
Et pour vous, c'est un documentaire ou un docu-réalité ?
C'est un docu-réalité. C'est-à-dire qu'on a suivi la réalité, on a quand même créé des outils pédagogiques, on a créé une situation qui n'existe pas malheureusement. Pas encore dans la réalité. Et ce protocole médical et tout ce qu'on a créé comme outil ont permis, je pense quand même, si ce n'est d'aller jusqu'au bout, de comprendre pourquoi on n'y allait pas.
Alors Pierre-Yves, pourquoi est-ce que vous avez, décidé, accepté de participer à cette émission ?
Ben, moi déjà, avant de participer à l'émission, j'avais déjà tenté un parcours de chirurgie. J'avais été même jusqu'au la veille de l'opération, c'était annulé. Où j'avais créé un blocage, je ne voulais plus entendre parler de chirurgie, ni de régime, ni de perte de poids, ni... j'avais lâché toutes les vannes, jusqu'au jour où j'ai vu un appel à témoins passer, et j'ai mis un mois de réflexion avant de répondre, parce que moi je suis plutôt passionné de télévision, donc je connaissais les avantages et surtout les risques à passer dans une émission sur M6, en prime, je voyais ce que ça pouvait représenter, donc j'ai mis un mois à réfléchir. Je connaissais déjà la chirurgie pour avoir fait un parcours et je m'étais dit, j'aurai le suivi médical, je vais avoir le suivi familial et je vais peut-être avoir aussi un cercle, alors je l'appelle cercle médiatique, mais un cercle avec les journalistes, tout ça, un troisième cercle pour m'aider, m'épauler.
Le soutien, oui.
Voilà. Et je me suis dit, ça peut pas être mauvais, ça peut...
Mais est-ce que ça vous a aidé, justement, en se disant, tiens, il faut que je me tienne parce que j'ai la télé, tiens, il faut que, quand même, je suis un exemple. Est-ce que ça vous a aidé plutôt que si vous aviez été que tout seul dans cette aventure? Parce qu'à un moment, il vous arrive, je ne vais pas spoiler, il vous arrive quelque chose qui fait
assez grave.
Est-ce que ce qui arrive à ce moment-là, est-ce que la télé vous a aidé à passer cette vague qui va être très compliquée, qu'on verra
Alors, la télé ne m'a pas aidé, l'équipe qui est derrière la télé m'a aidé. Et entre autres, Karine Lemarchand m'a beaucoup aidé. Ça, je le redirai haut et fort. Dans tous mes épisodes plus ou moins, difficiles, j'ai Karine qui était là disponible, qu'elle soit en vacances, qu'elle soit... Voilà, elle n'était pas que là devant la caméra, elle était là derrière. Et je pense
c'est important de le dire, ça.
Pour moi, oui.
Qu'il y avait ce soutien et que Karine Lemarchand n'est pas faire des lancers.
C'est extrêmement important pour
c'est
moi.
C'est pas Jennifer dans The Voice, qui vient que pour la télé.
Non, c'était extrêmement important. Et moi, j'ose même dire qu'aujourd'hui, sans opération Renaissance, si je m'étais fait opérer classiquement chez moi, au mieux, j'aurais repris tout mon poids. J'aurais peut-être fini à la rue, voire je serais mort. Je pense que sans opération Renaissance, j'en serais arrivé là.
Mais vous n'avez jamais été heureux en tant qu'obèse ?
Je pense pas. Mais c'est même pas en tant qu'obèse, moi, que j'ai pas été heureux. Je pense que j'ai pas été heureux tout court. En tant qu'homme obèse, c'est plus qu'une histoire d'obésité, moi, mon souci.
Ouais.
C'est, je pense que
ça n'a pas aidé. Je pense que comme t'as toujours, il a toujours été en surpoids depuis sa naissance, voire obèse très jeune. Et le regard des autres, notamment à l'adolescence, c'est un cercle vicieux aussi, l'obésité. Et je pense que ne pas trouver sa place, en plus, il est très très grand. Il a le sentiment depuis toujours de ne pas être dans la norme.
Bah, j'ai toujours été hors norme sur la fameuse courbe du carnet de santé, que ce soit hauteur ou poids, j'étais toujours au-dessus.
Plus l'homosexualité, qui a été un questionnement pour toi. Donc tu te dis, je ne suis pas dans la norme en tout, donc c'est pas facile de se construire.
Ce qui est assez réussi de Karine Le Marchand, ce sont les gens, les témoins qui sont là, qui ont décidé de m'écrire, et on voit ces parcours de vie, la difficulté de chacun d'entre eux.
Justement, Valérie, pour que nos auditeurs se rendent un peu compte, parce que nous, on a été un peu privilégiés, je vous propose d'écouter la bande-annonce. On va avoir des extraits de ces témoins qui parlent, parce qu'évidemment, il n'y a pas que Pierre-Yves. Au total, il y a une dizaine. Ils sont 10. Écoutez, la bande-annonce, elle reflète bien ce que disent ces témoins.
Alors, on n'a pas encore la bande-annonce. On va l'avoir dans un original Lalouche. Vous êtes donc l'un des médecins. Il y a un psychiatre également, le docteur Clerget. Une aventure comme celle-là, qu'est-ce qui vous a intéressé ?
Moi, ce qui m'a intéressé, c'est au fond trois choses. La première, c'est que pour une fois, on va parler de prévention. Parce que l'obésité, c'est la porte d'entrée, on le sait, c'est des statistiques qui sont claires, c'est la porte d'entrée au diabète, aux maladies cardiovasculaires, à des problèmes neurologiques, et qu'à un moment, cancer, c'est-à-dire qu'on a plus de risques d'avoir des cancers quand on est effectivement obèse. Et donc, ce qui m'a intéressé dans l'émission et pourquoi j'ai participé, c'est tout d'abord pour mettre l'accent sur la prévention. On ne parle jamais de prévention, on n'investit jamais dans la prévention. La deuxième chose, c'est que l'émission montre bien...
Oui, parce qu'il y a plein d'astuces, en fait, pour tout le monde. C'est pas une émission destinée que pour les obèses, pour tout le monde, et à chaque fois, on essaye vraiment de donner des pistes.
On va parler de métabolisme.
Docteur, la prévention, elle vient aussi des parents.
Pas forcément.
Oui, mais c'est aussi bien d'en parler aux parents.
Je pense qu'il faut ajouter une chose, c'est que l'obésité est une maladie. Et qu'une maladie se soigne. Et que cette maladie, elle peut être causée par beaucoup de facteurs. Moi, je n'ai jamais rencontré un obèse négligé. Ce que je dis dans négligé, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont gros parce qu'ils mangent, parce qu'ils sont négligés, parce qu'ils sont complètement à la ramasse, non pas du tout.
Ou faibles, souvent l'image.
Ce sont des gens qui ont des problèmes, qui sont parfois des problèmes, et nous le verrons dans l'émission, qui sont des problèmes qui remontent à l'enfance.
Ah, très loin.
Et je pense que le savoir-faire de cette émission, c'est d'avoir pu dire les choses. Parce que, même en consultation, c'est très important qu'on comprenne pourquoi. Parce que, quand le thérapeute sait pourquoi, son action n'est pas du tout la même. Et ça peut être un facteur effectivement familial, ça peut être un facteur environnemental, ça peut être aussi un caractère inné de frustration, de fragilité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et l'émission le montre parfaitement, la chirurgie, ça n'est que le début de l'histoire.
Ouais.
Donc il y a avant, je prends ma décision et j'assume ma décision parce qu'il faut l'assumer.
Pierre-Yves,
c'est un type très courageux. Et ils sont tous très
courageux.
Qu'ils ont compris qu'au fond, la chirurgie, ça dure, une heure, deux heures, on sort de là, mais c'est là où ça commence. Parce qu'on a toujours le cerveau d'un obèse quand on sort. Même si le corps diminue, le cerveau est toujours...
Et les habitudes.
Et est-ce que finalement, on n'est pas toujours un ancien gros, ancien obèse ?
Toujours.
On n'est plus jamais quelqu'un de...
C'est comme le fumeur qui rêve toujours de sa première...
Donc, il ne faut pas rêver de penser qu'on se ramasse...
Il ne faut pas rêver, c'est pas miraculeux.
Mais c'est ce qui permet de rester bien aussi.
C'est pas miraculeux.
Le fait d'avoir cette épée de Damoclès, oui, c'est vrai que ça peut être une angoisse. Mais ça permet aussi, en se considérant malade d'obésité, même quand on est mince, de ne pas replonger aussi.
Oui, mais dans le regard des autres, c'est toujours « Ah, qu'est-ce qu'il a maigri ?»
Ah non, dans le regard des autres, ça change.
Non, dans le regard des autres, ça change. D'ailleurs, c'est un des problèmes de l'environnement.
Ah oui.
C'est que les gens ont horreur que leurs proches changent. Ouais. Et souvent, pour un obèse, l'environnement ne va pas obligatoirement être très favorable. On le verra aussi dans l'émission. Puis le troisième point, c'est que la réussite de Pierre-Yves, c'est d'abord le fait d'abord qu'on s'est donné, et je remercie Karine Le Marchand, elle s'est donné la durée, parce que c'est rarissime.
Oui, d'avoir trois ans pour faire ça.
M6, bravo.
Et puis, c'est l'équipe. Parce que derrière les membres, il y a eu toute une équipe de médecins, de psychothérapeutes, de psychiatres, de chirurgiens. Et c'est ça qui fait la réussite, c'est le suivi. Et juste un dernier message. Pour tous les gens qui ont eu une opération, une intervention de chirurgie dite bariatrique, on a 50% de perdu de vue. Et c'est perdu de vue.
Ah bon,
on sait que c'est un échec. Souvent.
Pierre-Yves aussi, on n'était pas là.
C'est ce qui s'est passé pour vous.
Voilà. Et donc, il faut tous les éléments pour décider oui ou non la chirurgie. Et de ce côté, la CNAM a fait le travail, puisqu'il y a un protocole qui est très, très, très clair et très assez rigide. D'ailleurs,
il y a des pays du Nord où on oblige les patients à revenir aussi.
Exactement.
Oui. On leur rembourse, ils avancent l'argent de l'opération et on leur rembourse au fur et à mesure de leur consultation post-opératoire pour les obliger en fait à venir.
Mais quand on voit ce que ça représente, parce que c'est très lourd, on voit que c'est une chirurgie extrêmement lourde, vous l'avez dit, très, qui peut être dangereuse également, qui a des conséquences, parce que quand on maigrit, en plus, on a la peau qui tombe, etc. Donc on peut aussi avoir peur d'avoir des carences ensuite.
Parce qu'il y a deux types de chirurgie quand même. Il y a la chirurgie, ce qu'on appelle le bypass.
Absolument, c'est ce que vous expliquez très bien d'ailleurs dans l'émission.
On enlève un tiers de l'intestin grêle, donc une maladie de malabsorption, donc des carences, et il faudra toute sa vie prendre des compléments alimentaires. Pour ça, il faut avoir les moyens, parce que souvent les compléments alimentaires ne sont pas remboursés.
C'est vrai.
Deuxièmement,
tout
vous
comme
avez
le suivi psychothérapeutique, c'est surtout ça le vrai scandale.
Exactement. Ouais. Et la sleeve, où on fait un manchon, qui permet de réduire la faim, et les gens, après la chirurgie, ont beaucoup moins faim. Mais ça, c'est le début de l'histoire.
Mais l'estomac se redistend. L'estomac, c'est comme un sac, c'est comme un plastique. Mais donc, au bout de 3 ans, il peut se redistendre comme un ballon.
Et on reprend son poids.
Mais bien sûr, 30% des gens opérés reprennent leur poids.
Donc il faut c'est pas simple.
Mais la variable d'ajustement, c'est le suivi. Ceux qui sont suivis ont des critères de réussite en général significatifs.
Et ceux qui font la chirurgie réparatrice aussi ont des critères significatifs de non-reprise de poids.
Mais alors ça, moi j'ai été très surpris dans le documentaire, je suis un peu spécialiste. Non, j'ai été très surpris que en fait, derrière, donc évidemment, on a ce qu'on appelle le tablier, les seins qui tombent, les bras...
La peau se vide.
Et finalement, on n'est pas forcément autorisé à avoir une opération tout de suite, en fait.
Non.
On met 1 ou 2 ans avant d'être autorisé. Donc on se retrouve avec un corps qu'on peut plus montrer pendant un an et demi.
Mais voire plus, parce que nous, les deux ans sont nécessaires pour que ce soit une stabilisation et qu'on ait son poids maximum, on va dire, quand tout se passe bien, parce que ça peut être beaucoup plus long. Il y en a qui atteindront ce poids des années après. Mais c'est minimum 2 ans. Mais après, il faut certains critères. Il faut être stable psychologiquement, être stable au niveau de son poids et avoir un IMC en dessous de 30, donc être sorti de l'obésité depuis un certain nombre.
Et ça vous a pas fait peur, Pierre-Yves, de pas pouvoir modifier votre corps en chirurgie esthétique?
Après, je suis toujours pas passé par là.
Il est pas encore apte.
Moi, je suis.
Ah, vous avez toujours pas fait les opérations.
Je suis encore un peu le corps, on va dire.
Il a pas fini sa perte de poids.
Mon parcours est encore en route.
Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce parcours?
La dépression, on peut dire ça sans spoiler.
C'est tous les soucis qui peuvent en déclencher qu'on n'analyse pas forcément quand on se lance là-dedans. On n'imagine pas que la chirurgie bariatrique va modifier autant de choses dans sa vie, que ce soit du domaine professionnel, du domaine relationnel,
amoureux. Beaucoup de séparation statistiquement.
Les déplacements d'addiction qui sont possibles aussi. Enfin, c'est tout un tas de modifications qui fait que si on n'est pas bien préparé et encore plus pas suivi.
Pas volontaire pour le changement.
Oui, on ne m'a pas suivi.
Vous avez mangé quoi hier soir?
Hier soir, c'était une quiche qu'a fait mon ami qui a été opéré aussi, avec qui je suis venu. Donc, une quiche avec des légumes, quelque chose de très bon.
Ouais.
Et surtout, aujourd'hui, je mange sans frustration.
Ça vous a mis du temps
parce que la chirurgie bariatrique, ce n'est pas un régime miracle, c'est pas une baguette magique, c'est juste un outil, formidable outil pour moi que je dirais aujourd'hui, mais c'est juste un outil qui sert à faire quelque chose.
Oui, parce que il y a des processus, il l'a très bien dit, c'est des processus très compliqués, c'est multifactoriel, il n'y a pas de solution simple à ce genre de problème. Il faut donc aborder, quand on se réveille de la chirurgie, c'est là où ça commence.
De toute façon, je dis ça à nos auditeurs, la chirurgie, elle prend une part infime dans l'émission.
Mais comment vous avez eu l'autorisation d'aller dans la salle d'opération? Ça, je me suis posé la question.
Mais non seulement ça, j'ai réussi à avoir l'autorisation que certains médecins opèrent dans d'autres hôpitaux qui n'étaient pas les leurs.
Ah, oui.
Mais vous pouvez Reginald est témoin, j'ai dû commencer à lui parler de ça il y a 6 ans.
Oui, c'est ça, parce que c'est extrêmement rare qu'il y ait une journaliste dans la salle d'opération.
Pourquoi vous vouliez être
Pourquoi? D'abord parce que j'adore. J'adore tout ce qui est chirurgical. Franchement, j'ai adoré. J'adore comprendre. Et je trouve que c'est très opaque. Et qu'en général, quand on assiste à une opération à la télévision, ce sont des gens qui sont déjà érudits et qui ne posent pas les questions de madame, monsieur, madame, tout le monde. J'avais une chance et pour moi, j'avais une mission aussi par rapport à mes témoins, c'était de leur raconter ce qui se passait dans leur corps. Évidemment, ils dormaient, Dieu merci. Et donc, je trouvais ça, je trouve ça magique quand la science peut se mettre au service de l'humain à ce point, et c'est valable pour la chirurgie de l'estomac, mais aussi pour les chirurgies réparatrices esthétiques après. Je pouvais faire des photos, et surtout, je pouvais poser des questions au chirurgien pendant qu'il opérait, des questions de quelqu'un qui n'y connaît rien. Et finalement, à la télévision, même si on floute, je rassure les auditeurs, on floute le sang, etc., je pense qu'on comprend, en fait, ce qu'on fait.
Mais vous savez, sans faire l'avocat du diable, qu'on va dire que c'est des séquences trash.
Bah non. Ah, pas du tout.
Ah, vous ne pensez pas que...
Mais d'ailleurs, il faut juste
sur les réseaux
sociaux, les chirurgiens, deux chirurgiens. Parce que d'abord, ils ont fait preuve d'une pédagogie remarquable. Ouais. Je le dis
ils
sans aucune démagogie.
Hein.
Ils ont fait preuve d'une vraie pédagogie. Et franchement, les séquences qui sont les séquences chirurgicales sont visibles par tout le monde. Ouais, vraiment, par tout le monde. Il n'y a pas du tout...
Non, ce n'est pas gore, parce que c'est...
Non, pas du tout.
Non, c'est flouté. C'est flouté.
On voit dans un écran ce que c'est qu'un estomac. Il y a des schémas, de la 3D. On explique.
Et on voit que toute l'équipe est là pour la réussite de ce projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas, bah, vous allez voir, on va analyser exactement ce qui se passe. On est là parce qu'on est avec eux et que l'idée, c'était justement de faire que ce soit une réussite. Et d'ailleurs, il y a un point important, c'est le fait qu'il y a eu 10 candidats. Cette communauté aussi a aidé parce qu'ils se sont parlé, ils ont échangé.
Un groupe, c'est très important.
Toujours actuellement, d'ailleurs.
Et ça, c'est aussi un message que je peux porter, ne le faites pas seul. C'est-à-dire,
mais là, on voit une expérience... On ne va pas, encore une fois, dévoiler ce qui va se passer, mais on voit une expérience où il y a eu beaucoup de soutien, beaucoup d'accompagnement. Les gens qui nous écoutent, qui sont obèses, se disent « Oui, mais moi, je ne vais pas avoir tout ça. Donc, je vais m'engager dans une aventure qui va être... »
Oui, mais par exemple, Pierre-Yves a monté une association, je crois.
Vous savez, même une structure... jusqu'à présent, il y a quelque chose qui s'est créé en mois de mars, une structure... pour accompagner les personnes à Nantes. On est même en train de faire des projets, des réflexions pour avoir des week-ends. Comme ça, on accueille les gens avec des personnes qui ont vécu les choses, qui ont des astuces, des conseils et surtout une oreille pour écouter les gens.
Bien sûr. Oui, c'est important.
Parce que je pense que voilà, l'obésité, c'est une maladie. Quand on rentre dedans, on rentre aussi dans un isolement. Un obèse est souvent seul. Il peut être bien entouré, mais il sera toujours seul dans sa tête. Et sortir de l'obésité, c'est aussi sortir de l'isolement. Et ce n'est pas ce qui est le plus simple dans ce parcours-là.
Vous n'avez pas peur des réactions après les émissions?
Bon, non, son slip était propre. Hein.
C'est quoi?
Parce qu'on le voit en sous-vêtements.
Oui,
Après les réflexions, après l'émission, c'est ce que j'ai dit en début, c'est que moi, je connais un petit peu ça, parce que je regarde beaucoup la télé, j'aime ça. Donc, quand je disais que je connais les risques de passer dans une émission, oui, il y en a certains qui vont me trouver certainement trop gros avant, peut-être moche après.
Des critiques dessus, je dois dire que l'émission est assez digne. Fiction, mais qui a beaucoup d'émotions. Même si on n'est pas forcément concerné par l'obésité, ce sont des tranches de vie, des témoignages, et puis
c'est beaucoup d'estime de soi aussi. Absolument. Donc ça renvoie à la nôtre aussi.
Apprendre à s'aimer, c'est
C'est le critère de réussite de la perte de poids, qu'elle soit par chirurgie ou par régime et activité physique. Je dis bien régime et activité physique.
Voilà, les deux sont indispensables.
Et je dirais même activité physique et régime.
Et pas régime restrictif,
pour pouvoir faire de l'exercice, justement. Voilà. Mais le critère, c'est le retour du self-esteem, de l'estime de soi.
De l'estime de soi.
Quand on s'aime à nouveau, quand on redevient la personne la plus importante de sa vie, à ce moment-là, la réussite est là.
Mais qu'est-ce que vous dites aux parents aujourd'hui qui ont des enfants en surpoids? Parce que c'est peut-être aussi à ce moment-là et ces gens-là à qui il faut parler aujourd'hui.
L'obésité des enfants, c'est un vrai sujet
parce que c'est beaucoup plus
compliqué. Ouais.
Ne les mettez pas au régime déjà. Ne les mettez pas au régime.
Pour pas parler de régime, il faut souvent une tierce personne. Ouais. Il faut un tiers parce que à la crise d'adolescence. Les enfants vont essayer de s'individualiser, parfois en opposition avec leurs parents. Le poids peut devenir
un
enjeu. Donc vraiment, c'est une affaire de spécialiste et je vous invite vraiment à consulter des spécialistes pour ça.
Moi, je peux leur dire aussi, l'amour, parce que je suis une maman, et l'amour d'une maman ne passe pas parce qu'on lui donne à manger, et ça, va falloir qu'on en sorte, parce que c'est un système d'après-guerre. Aujourd'hui, notre enfant, quand il se cogne, quand il se fait mal, moi, je fais partie de cette génération à qui on donnait un bonbon. Tu as mal, tu pleures, tu donnes un bonbon. À l'âge adulte, notre génération, quand elle va mal, quand on s'est fait larguer, quand on a un problème au travail, etc., qu'est-ce qu'on fait ? On a ce systématisme-là, on va manger. Et donc aujourd'hui, un enfant qui ne va pas bien, qui s'est fait mal, qui est en souffrance, il a besoin d'un câlin, il a besoin d'aller au parc, il a besoin qu'on l'écoute, qu'on se baisse, qu'on se mette et qu'on lui dise « Viens, on passe à maman ensemble, on va parler, on va faire des choses. » Il n'a pas besoin de bonbons. Voilà.
Oui,
moi je voulais savoir comment, parce que je reviens là-dessus, je suis un peu le poil à gratter de l'émission, comment vous allez réagir, Karine, et comment vous réagissez, parce que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, sur les accusations de grossophobie, d'émissions trash, ou des choses qu'on a vues un peu passer.
Je vous ai vu un peu réagir. Il y a 2 ans, il y a 3 ans.
Oui, mais ça va revenir avec la diffusion. Est-ce que pour vous...
C'est ça, qu'on continue sous prétexte que la société... Parce que c'est, en fait, le combat est noble de, de ces personnes. C'est vrai que la société ne supporte pas les gros. C'est vrai qu'ils ont du mal à trouver du travail, à trouver des compagnons. Ça, c'est un fait. Alors, une fois qu'on a posé ça, leur combat, il faut qu'ils continuent à le mener. Et ensuite, on fait quoi ? Est-ce qu'on continue à ne pas parler d'eux ? Est-ce qu'on continue à ne pas donner la parole aux obèses ? Est-ce qu'on continue à faire comme si ces 7 millions de personnes n'existaient pas sans leur proposer de solution ? Est-ce que parce que je pèse moins de 60 kilos, je ne peux pas comprendre la souffrance de quelqu'un qui ne s'aime pas ?
J'ai vu les critiques qu'évoque Gilles, ce sont des critiques principalement de groupes d'obèses.
Oui, absolument, donc, d'associations.
De groupes d'obèses qui n'existaient pas il y a 3 ans et qui maintenant sont très célèbres.
Il faut, aujourd'hui, il y a une vraie pandémie qui ne s'appelle pas le ou la Covid, voilà, puisque ça c'est encore un truc. Ça s'appelle le diabète de type 2. C'est une maladie qui est hors de contrôle sur l'OMS. Alors on ne voit pas les gens dans la rue parce qu'un diabétique et un non-diabétique, ça ne se voit pas. Mais c'est une maladie qui est la première cause de cécité, d'impuissance, d'insuffisance rénale, d'amputation non traumatique, de maladies cardiovasculaires avec des risques. Donc, ça, faire la prévention, tous les gens qui sont dans ce groupe sang, avaient moins de 30 ans.
Et la mortalité pendant la Covid.
Et la mortalité pendant la Covid, évidemment. Plus de 33% des malheureuses personnes qui sont décédées
étaient en surpoids.
Donc ce sera lundi, opération Renaissance sur M6 à 21h05. Karine Lemarchand, donc il y a 10 témoins. On commence avec
en fait, c'est deux personnes à chaque fois. On voit du début à la fin leur aventure dans chaque épisode.
Pierre-Yves sera la deuxième émission.
Voilà, ce sera lundi d'après. Pierre-Yves, que vous retrouverez, Réginald Dallouche, votre livre La méthode des pâteaux détox et les 15 étapes pour apprendre à s'aimer sur 15étapes.com. Oui. Merci Karine Lemarchand.
Aimez-vous en cette année 2021.
Oui, bonne année. Bonne année.
Au centre de vous-même. C'est important.
Redevenez la personne la plus importante de votre vie.